faire tomber le champion en titre. Entre ces deux superstars, les Lakers font profil de favoris dans ce carré pour la course à la finale de la conférence. Cependant, les apparences pourraient être bien trompeuses entre le papier et la réalité du terrain, car si les Lakers sont favoris, la dynamique pourrait ne pas être de leur côté. Handicapés par de nombreuses blessures, LeBron et AD ont du mal à retrouver le rythme, et même si beaucoup de choses pourraient être imputées à la Ligue, tant sur la gestion du calendrier que le rythme des matchs, les Lakers n'ont jamais été aussi prenables cette année. Alors, qui pourra en profiter? Les Suns, par exemple, pourraient tirer leur épingle du jeu. Démontrant un niveau de jeu exceptionnel contre toute attente, ils ont été à la lutte pour la meilleure équipe de la Ligue toute l'année, et leur coach Monty Williams a été désigné logiquement coach de cette saison. Chris Paul, en quête perpétuelle de rédemption en playoff, est arrivé dans une équipe qui, pour une fois, en voulait autant que lui, et l'histoire pourrait être belle. Et si Phoenix ne gagne pas le premier tour, qui se mettrait sur la route des Lakers? Entre Denver et Portland, la bataille fera rage. Deux oppositions de style, mais une lutte sans merci qui s'annonce pour une place en demi-finale de conférence, entre un MVP annoncé qui doit porter son équipe et des shooters fous, bien malins, celui qui serait capable d'annoncer le gagnant. Vous écoutez la dernière partie du 11e épisode du Carton, votre podcast basket préféré. Bonjour à tous et bienvenue avec moi pour ce 4e Carton, et je dois vous avouer que je me sens bien seul actuellement autour de la table avec moi ce soir. Je n'ai pas un, mais deux fans des Lakers, et si l'impartialité devait être de mise dans l'équipe du Carton, essayez d'être indulgent avec mes compères dans les prochaines minutes. J'ai donc le plaisir d'accueillir avec moi Teddy.
Oh les gars, je suis très blasé de la défaite des Lakers, donc faut y aller doucement.
Et Hugo.
Écoute, c'est l'heure de prêcher pour notre paroisse. Je compte sur Teddy pour m'appuyer en backup, mais c'est vrai qu'on risque de passer un sale 4e carton.
Du coup, je vous arrête, et avant de vous laisser m'expliquer pourquoi les Lakers sont la meilleure équipe de la Ligue et qu'ils vont une nouvelle fois gagner le titre cette saison, on prend la direction tous ensemble du Colorado avec la série entre Denver et Portland. Malgré un Game 1 remporté par des Blazers incandescents, Denver rectifie le tir sur le Game 2 grâce notamment à une belle réaction de Nikola Jokic. De ton côté, Teddy, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux premiers matchs entre les Nuggets et les Blazers?
Bah, c'est une série qu'on commence à connaître, qu'on a déjà connue, il me semble, dans les playoffs 2019, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais deux matchs très intéressants. J'attendais effectivement ce score de 1 partout. Des deux patrons en tout cas qui sont là, qui sont bien présents, un bon collectif des Blazers du coup dans ce Game 1, et puis un Nikola Jokic, mais patron, de toute façon on va en reparler, hein, mais incroyable, on oublie, c'est le candidat MVP, c'est le futur MVP de la Ligue sûrement, et je les ai trouvés, en tout cas deux très beaux collectifs qui sont affrontés, et une très très belle série à suivre, j'en dis pas plus pour tout à l'heure.
C'est vrai que, comme tu l'as dit, Jokic, c'est le futur MVP, hein. C'est très compliqué forcément de voir quelqu'un être capable de lui tirer la dragée haute. De votre côté, comment est-ce que vous voyez les Blazers être capables de défendre sur le Serbe? Hugo, pour toi, est-ce que Jokic est seul face aux Blazers? En tout cas, les Blazers auront forcément du mal face à lui.
Totalement. De toute façon, on l'a vu sur le Game 1, on l'a vu sur l'ensemble de la série. De toute façon, quel que soit son adversaire, Jokic fait toujours des gros matchs. Enfin voilà, c'est best pick TTFL sur 72 matchs en fait, limite. Donc
pas pour moi, ça m'est arrivé une fois. Il a fait son worst pour moi.
Ah, il a fait son petit 15 points. Bah écoute, les erreurs du métier, mais. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de solution pour défendre ce garçon, mais je pense pas que ce soit un problème. Sur le Game 1, il est en 34-16, quelque chose comme ça. Gros match, pas trop actif à la passe. J'aurais aimé quand même qu'il nous en donne un peu plus à ce niveau-là, vu ce qu'il a fait cette saison et ce qu'il est capable de faire. Mais en fait, je pense que Portland peut très bien survivre à cette série, malgré un très gros Jokic. C'est-à-dire, Jokic, vas-y, fais ton match, on te laisse faire. Nous, on a nos certitudes à côté, on sait sur quoi on va te piquer, ou du moins piquer les Nuggets au global. Mais solution, non, il y en a pas. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, je pense que Portland a l'avantage dans cette série, et l'absence de Jamal Murray fait extrêmement mal aux Nuggets, surtout offensivement, clairement. C'est un joueur qui a amené énormément d'alternatives en fait dans l'attaque. Donc voilà, écoute, très très compliqué. Puis je pense que personne ne leur en voudra en fait de si jamais en cas d'échec, tu vois, personne leur en voudra, t'as pas Jamal Murray, t'es, voilà, c'est compliqué, quoi. Puis au pire moment, t'as pas trop eu le temps de t'ajuster, ça arrive en fin de saison, voilà, quoi.
C'est vrai qu'ils ont Campazzo qui arrive quand même à sortir des performances hyper intéressantes. Hein, c'est un rookie à 35 ans, mais c'est un rookie quand même. Enfin, j'exagère un petit peu sur son âge. Mais c'est vrai que le vrai problème de Denver va être de défendre sur les lignes extérieures. Et Portland semble être actuellement en feu et va pas laisser grand chose. En tout cas, ne semble pas vouloir laisser grand chose si les Nuggets laissent les portes du saloon ouvertes comme ça. En tout cas, on l'a vu sur les deux premiers matchs, ils réussissent un nombre de tirs absolument hallucinant à l'extérieur. Et petite stat intéressante, même s'ils perdent le Game 2, c'est la première fois depuis janvier 2020, que les Blazers perdent un match alors qu'ils avaient marqué plus de 48% des tirs extérieurs. Donc c'est intéressant de voir, au final, Denver a peut-être eu de la chance sur ce Game 2. Mais comme tu le disais, Hugo, on va dire la dynamique semble être du côté de Portland. Et autre statistique intéressante, parce que vous me connaissez, féru de ces petites phrases et de ces petites stats qui nous sortent chaque fois de la Ligue. Le dernier MVP à avoir gagné les finales, est-ce que vous êtes capable de le deviner? Un MVP de saison régulière qui gagne des finales.
Pas très compliqué.
De quoi?
Shaquille O'Neal, je pense.
Non, plus récemment.
On est sur du bonbon, là, non?
Non, c'est Stephen Curry 2015.
Oh putain, on est mauvais.
Non, vous êtes trop dur avec vous-même. Mais du coup, ça pourrait être assez compliqué quand même pour Jokic. En tout cas, les statistiques ne penchent pas forcément de son côté. Et Hugo, tu voyais ton pronostic partir du côté des Blazers.
Exactement. Comme je le disais avant la série, s'ils restent dans leur continuité en fait au niveau de leur adresse du côté de Portland, ça va être trop compliqué pour Denver. Défensivement, ils sont pas armés pour cette match-up. En fait, c'est con, hein, c'est dommage pour eux parce que ils ont vraiment un bon effectif. Mais voilà, en termes de match-up, c'est trop compliqué. Il va falloir absolument un MPJ monstrueux du côté du Colorado pour que les Nuggets puissent espérer quoi que ce soit en fait. Je sais pas si tu voulais me lancer sur les pronos du coup, mais si, écoute, je vais me spoiler, comme ça sera fait. Écoute, Portland en 6, et si les Nuggets se réveillent et trouvent des solutions, pourquoi pas un petit Game 7 voilà, au hasard, tu vois, mais Portland.
Pour toi, Teddy, tu penches aussi vers Portland ou tu vois Denver s'imposer?
Bah allez, on est là encore pour se mouiller. Je pense que ça va être du Portland au Game 7, même s'ils ont l'avantage du terrain. Ils sont quand même capables de finir, ils l'ont déjà prouvé à Denver. Je pense réellement que voilà, Murray,
disons que quand t'as Lillard en Game 7,
mais Lillard, t'as McCollum en Game 7, on aime le critiquer, McCollum, mais quand même il est là. Norman Powell, il connaît aussi ce genre de rendez-vous. Carmelo Anthony qui prendrait sa revanche chez lui dans sa franchise qui l'a fait briller. Il y a énormément de possibilités en attaque pour Portland, et ça serait vraiment une claire désillusion pour les Trailblazers s'ils perdent au premier tour, même si c'est contre Denver, mais c'est un Denver affaibli. Et le collectif de Portland semble vraiment s'apprécier. On sent qu'il y a une bonne ambiance dans ce groupe grâce à Lillard, qui est un vrai leader. Mais Game 7, parce que c'est Denver, parce que c'est Jokic, et puis parce que c'est bien coaché, c'est bien entouré, et ça fonctionne. Donc allez, Game 7, Portland.
Mes chers collègues, roulement de tambour, nous arrivons maintenant à la série que vous attendiez depuis le début. Et on va bien sûr parler de vos chouchous qui, malgré une cote à leur avantage, pourraient peut-être déjouer face au jeu et à l'intelligence des Suns, tenus en échec.
Les Kings
tenus en échec dès le Game 1. Quelles sont pour vous les raisons de la mésaventure des Lakers face aux Suns, Hugo? Je te laisse la balle ou
allez, écoute, j'ai pas peur de prendre la balle. Les Lakers ont été dramatiques sur ce premier match. Match ultra défensif, ou en tout cas en termes d'adresse, on est sur un 99-90 en fait, donc on se croirait sur une série de playoffs d'il y a 20 ans. Mais écoute, dramatique maintenant en fait, c'est-à-dire là où j'ai un peu d'espoir, c'est que je pense qu'ils ont une marge de progression énorme, c'est-à-dire qu'ils ont, là où les Suns sont peut-être un petit moyen de progresser encore un peu au fil de la série, je pense que les Lakers peuvent faire beaucoup 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 mieux dès le Game 2. Il va absolument falloir qu'on assiste à un réveil d'Anthony Davis. Au bout d'un moment, il fait une saison... Alors, statistiquement, c'est pas une mauvaise saison, mais c'est pas une saison d'AD. Au niveau de la post-season, bon, bah, où est le garçon, quoi? On se demande encore, on le cherche. C'est-à-dire que je l'ai pas encore vu, je sais pas où il est. Donc, écoute, nous étonne énormément, tu vois, et c'est tellement différent par rapport au script de la saison précédente. Je sais pas, et les Suns de l'autre côté qui ont joué sereinement, comme ils savent faire, ça s'invente pas de vie. Chris Paul se pète un peu et il est diminué pendant le match, c'est pas grave, ils le prennent quand même. Maintenant, il y a aussi un truc qui me rassure, c'est cette sale manie qu'a LeBron de choisir ses matchs. De choisir ses matchs, de se plaindre aussi, ou de faire genre j'ai visé l'arceau au milieu. Mais c'est-à-dire que quand c'est sur un match coup près, on l'a vu contre les Warriors, ça lâche rien, ça va jusqu'au bout et ça gagne, tu vois. Mais quand c'est sur une série en 7, quand t'as un petit matelas de sécurité derrière, etc., etc., et bah si on voit que le match il le prend pas, que c'est un peu difficile, bon bah on le finit histoire d'eux, si on peut le prendre c'est bien, si on le prend pas c'est pas grave, tu vois. Et donc je me dis que ça c'est du LeBron classique, on l'a vu tout le temps comme ça, sur ce mode là donc écoute, ça c'est encore pareil, c'est tant les Lakers ont été mauvais et surprenants, je sais plus sur quel match j'avais la même réflexion, c'est un échantillon qui est un peu faible, un match pour se projeter très loin dans la série. J'attends énormément de voir ce qui va se passer au Game 2. Écoute, je lance un cri du désespoir, mais j'espère quand même que les Lakers vont se réveiller, quoi. Maintenant, tu vois, si c'est pas le cas, je serais pas étonné. Mais bon, je vais pas me spoiler. Allez, je file la gonfle à Teddy pour le alley-oop.
Ouais. Mais moi, justement, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense qu'effectivement, les Lakers, on peut pas les voir plus mauvais que ça. Individuellement, c'est pas possible.
Ah là, ils sont planchés. Hein.
Davis, aussi mauvais, ouais, un peu de réussite sur des shoots faciles, Montrezl, mais bon, son utilisation me questionne depuis le début de la régulière et là encore une fois dans cette entrée en playoff. De toute manière, je pense qu'évidemment il faudra qu'on parle effectivement de la profondeur de banc de Frankie Vogel, mais cette profondeur qui est très mal utilisée, je comprends pas ces rotations, hein, pour tout vous dire. Kyle Kuzma, même si je l'adore, doit être sorti bien avant que les Suns reprennent du poil de bête quand, dans mes souvenirs, Chris Paul au Game 1 se blesse. C'est du Wes Matthews qui rentre un peu n'importe comment et qui pourtant a prouvé sur de plusieurs matchs, même au play-in.
Ouais, au play-in, il était capable, hyper intéressant, hein, Wesley Matthews.
Ah oui, c'est ça, qu'il était capable, qu'il méritait beaucoup plus de minutes. Évidemment, LeBron et Eddie, faut-il se réveiller. Moi, je vous avoue que voir ces Lakers-là, je les déteste, parce que d'une, je sais qu'on va se faire critiquer sur Twitter, premièrement, et de deux, mais... c'est ennuyant, il y a pas un fond de jeu, le fond de jeu du cœur des champions qu'on a retrouvé, parce que c'est ça aussi qui était bien l'année dernière dans cette post-season, c'est que même s'il y avait ce LeBron et Eddie au top de leur forme, il y avait quand même un vrai collectif autour qui s'est mis parfois à briller et à exploser, alors quelquefois qui choquait aussi, hein. Mais voilà, du Caruso qui est capable de rentrer, voilà. Caruso en sixième homme, ça serait parfait, il faut le faire rentrer je pense plus tôt, là on est vraiment sur d'analyse que du côté Lakers, c'est des rotations du coach, mais à ce côté-là, ouais, je pense que les Lakers ne peuvent pas faire pire. Et puis pour parler des Suns, bah les Suns qui, fidèles à eux-mêmes durant toute leur saison, là, réussissent collectivement à briller. Il n'y a pas eu non plus un très très bon Devin Booker, un très très bon Devin Booker pour son premier match en playoff, il me semble. Voilà, je pensais pas après le play-in qu'il nous avait fait l'année dernière, qu'il allait confirmer aussi bien cette saison, et il me fait mentir, et là cette année c'est incroyable, aux côtés de CP Chouy qui fait pas non plus un match extra, mais toujours en chef d'orchestre de cette équipe, DeAndre Ayton qui rentre très bien dans ses playoffs, c'est assez rare aussi de le voir aussi massif, aussi puissant comme ça. Jay Crowder, on soulignait dans un ancien podcast, je pense que il a prouvé que son importance, et puis il y a son importance aussi à rentrer dans la tête des adversaires, hein, il peut même être capable de rentrer dans la tête de LeBron James, c'est dire. Donc faut féliciter les Suns, et clairement dans mon pronostic, vous verrez, hein, je donne plus qu'une victoire au Phoenix.
En tout cas, c'est vrai qu'on va jouer un petit peu l'extra time sur ce carton, parce que forcément, c'est toujours un plaisir d'avoir deux fans des Lakers et de pouvoir les entendre critiquer leur franchise de cœur. Il y a un point sur lequel vous l'avez un peu abordé, notamment toi, Hugo. Il y a un facteur X de la série qui pourrait être hyper intéressant à étudier. C'est Anthony Davis. Il a été en grande difficulté ces derniers temps. Il a été beaucoup blessé cette saison. Et encore plus que ses blessures, c'est son attitude, je trouve, qui pêche sur le terrain. Parce que, on l'a vu, alors certes, un joueur qui se blesse, qui revient, il y a tout le temps forcément physique, au niveau physique, bah une certaine distance, des petits problèmes à rentrer ses tirs, etc. etc.
Manque d'envie quand même.
Mais voilà, exactement, ça manque d'envie. Et face à Phoenix, il s'est fait vraiment ridiculiser par Dominaton. Et ça c'est fort, parce que DeAndre Ayton, on peut se moquer de lui, certes, c'est un premier choix de draft, qui a eu des petits problèmes, etc., il a été pris pour dopage, etc., etc., mais là, il a tapé un gros coup de poing sur la table face à Anthony Davis, qui reste l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, et surtout l'un des meilleurs joueurs du monde à l'intérieur. Donc, est-ce que ce serait pas ça le facteur X de la série? C'est-à-dire que même si LeBron fait une bonne série, Anthony Davis va peut-être pêcher pour les Lakers. Hugo, qu'est-ce que tu en penses de l'attitude d'Anthony Davis?
Écoute, catastrophique, clairement. Maintenant, je pense qu'il va bien finir par se réveiller dans cette série. Je pense qu'intrinsèquement, on présente plus le garçon. C'était un game one. Ils sont pas dans une dynamique qui est ouf, donc c'était compliqué. C'est vrai que tu te manges quand même un premier tour face aux Suns, qui font une grosse... Eux, ils sont dans une dynamique vraiment... ils sont tranquilles, ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs de leur force, c'est un collectif. Là où les Lakers, bah, c'est en dents de scie, tu vas en play-in alors que what the fuck. Enfin voilà, c'est deux dynamiques extrêmement différentes et je pense que ça a eu un gros impact. Anthony Davis, on sait que c'est un garçon qui met du temps à revenir, mais je pense quand même que dans des moments qui comptent, enfin il va se réveiller au cours de la série, j'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a plus d'analyses, comme l'a dit Teddy, à faire du côté des Lakers, tant les Suns ont été dans la continuité de leur saison. Maintenant, du côté des Lakers, j'ai des trucs qui me plaisent pas. Moi, c'est un truc que, depuis le début, je dis, j'aime pas Kuzma, j'aime pas l'arrivée de Montrezl Harrell du tout. Je pense que c'est pas une bonne addition. Tu pouvais aller chercher autre chose. L'effectif est moins bon. Mais voilà, en revanche, je vois les Lakers revenir et nous offrir une série bien plus disputée, avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de niaque, ce qu'on aime en playoff. Et je pense que ce Game 1 était un petit caillou dans la chaussure, quoi, et que ça va finir par s'arranger. Ayton, ça va pas être Shaquille O'Neal sur l'ensemble de la série, faut pas déconner.
J'ai confiance en lui, moi, personnellement.
Ouais, il va jouer comme un Drummond plutôt, Ayton, je pense.
Je suis pas sûr et je remets en doute l'objectivité du présentateur de cette émission. Mais voilà.
Ça
et
y est, écoute, le carton jaune est sorti, la faute technique, bim.
Allez, petite faute technique. Écoute, et bon, allez, je prono Lakers en 6.
Lakers en 6 de ton côté, pour toi, Teddy. C'est vrai que voilà, on a parlé du collectif des Suns, de potentiellement le réveil. Hein, on l'attend, le réveil des Lakers. Quelles sont pour toi les solutions pour que les Lakers parviennent à faire tomber les Suns?
Juste avant, tout à l'heure, tu as dit que Anthony Davis était un des meilleurs pivots de la Ligue. Je pense que tu as oublié Rudy Gobert, qui est quand même le meilleur pivot de la Ligue, si je me sens bien.
Je te dis, je pense que tu vas pas tarder à recevoir ton Mayo City Edition de Utah dans ta boîte aux lettres.
Non, mais j'espère. Non, mais plus sérieusement, je pense que... Bon, Hugo, tout à l'heure, a dit que l'effectif était moins bon. Hein. Je pense que beaucoup de personnes vont rager hein, s'ils entendent ça, parce que quand même, on peut pas trop se plaindre. Hein. Mais,
c'est indéniable que l'effectif est moins bon que l'année dernière, je suis désolé.
Il est bien différent.
Intrinsèquement,
et
collectivement.
Collectivement, il n'a pas eu le temps du tout de se faire la main quoi, avec les deux joueurs stars qui étaient absents. Donc c'est vrai que là, les Lakers orphelins d'AD et LeBron pendant une bonne partie de la saison, on voit la différence dès l'entrée des playoffs. Bon, pour rappel, les Lakers avaient perdu leur Game 1 l'année dernière, contre Portland, pareil contre les Rockets. Ça me fait, je vais pas encore une fois dire des conclusions trop hâtives et dire c'est bon, c'est foutu. Mais pour le coup, les Suns sont une très très bonne équipe. Cette série, j'aurais aimé la voir plus tard en playoff. Déjà parce que j'ai peur, mais parce que elle est magnifique à suivre et elle mérite bien une finale de conférence, comme d'autres affiches d'ailleurs. C'est ça qui est top cette année avec. Où c'est très très ouvert dans les deux conférences. Enfin bon.
Et justement, ton petit pronostic pour cette série.
Voilà. C'est ça pour parler de cette série. Je crois que j'ai jamais été aussi moins serein que par rapport aux autres Mais oh là là.
Ah non, attention. Ah non.
Ouais.
Il faut se.
Je vais nous dire Lakers en 7, je le connais.
Putain, mais t'es trop fort.
Allez.
Let's go.
Le mentaliste.
Allez, Hoop Daddy avec une passe de Caruso pour terminer le match. LeBron James du logo. Devin Booker qui voit trois paniers, lui, mais par contre il vise le mauvais. C'est ça que je veux.
Donc je vous rappelle, Dwight Howard
me manque. Je termine juste là-dessus. Dwight Howard me manque terriblement. Les
gars. Ah bah ça, je pense qu'il manque à beaucoup de monde. En tout cas, je conclue juste ce carton avec vos pronostics. Pour rappel, vous voyez tous les deux Portland se qualifier face à Denver avec un avantage en 6 matchs pour toi Hugo et en 7 pour toi Teddy. Et sur le match entre Phoenix et les Lakers, vous voyez tous les deux quand même votre franchise de cœur passer avec 6 matchs pour toi Hugo et 7 matchs pour toi Teddy. Et au moment où vous écoutez ce podcast, le Game 4 entre les Nuggets et les Blazers aura lieu ce soir et le Game 4 entre les Suns et les Lakers au Staples Center se disputera demain. En tout cas, on se donne rendez-vous très rapidement pour les analyser. Lillard, long range three, and it's good! Le buzzer final de ce 11e épisode retentit et je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant la review de ce premier tour. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux du Carton mais également de l'analyste pour nous donner votre avis et votre pronostic sur les séries entre Denver et Portland et entre les Suns et les Lakers. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr pour découvrir nos previews des séries de playoffs. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Bonne journée à vous. Salut !